France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le prochain festival d'Angoulême aura-t-il lieu ? Oui, assurent ce matin les organisateurs. Non, répondent en revanche les principales maisons d'édition de BD en raison de la volonté des auteurs de boycotter l'édition 2026. Le Sénat entame à partir d'aujourd'hui l'examen du budget de la Sécu. La droite majoritaire devrait y marteler son opposition à la suspension de la réforme des retraites et la gauche en profiter pour afficher cette fois-ci un front uni à l'occasion de cette énième marathon budgétaire. Et puis avec notre invité, on parlera des atteintes contre la psychanalyse dans un contexte justement de très fortes économies budgétaires. Enfin, l'actualité à l'étranger. On se rendra notamment au Liban après l'attaque menée la nuit dernière par l'armée israélienne la plus meurtrière depuis un an. Malaise à Angoulême, voilà des mois maintenant, depuis en réalité la dernière édition du Festival international de la bande dessinée, que la société privée 9e Art Plus, organisatrice de l'événement, se retrouve sous le feu des critiques, accusée non seulement d'opacité financière mais aussi de dérive mercantile, au point que lundi dernier, la présidente contestée de l'association historique a été mise en retrait et que par ailleurs, la reconduction de la société pour organiser le festival après 2027, à l'échéance de son contrat actuel, a même été annulé. Pas de quoi pour autant ramener le calme. Quand les éditeurs jugent que la confiance est rompue, les auteurs et autrices menacent carrément de boycotter la prochaine édition qui doit se tenir au mois de janvier. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, le journal Libération estime, lui, déjà que c'est plié. Le festival n'aura pas lieu en 2026. De leur côté, les organisateurs démentent. Qui faut-il croire et surtout, que faut-il comprendre ?
Alors, pour le moment, on ne peut pas vraiment parler d'annulation. Dans un communiqué ce matin, l'association du festival de BD d'Angoulême dit être à l'écoute des parties prenantes et que des réunions sont encore prévues cette semaine. Elle espère que ces discussions permettront de trouver une solution pour que l'édition 2026 se tienne. Les financeurs publics souhaitent aussi la maintenir pour la région. Une année blanche serait fatale pour le festival. Mais qui pourrait participer ? Autre communiqué ce matin, celui du syndicat national de l'édition. Il représente une vingtaine d'éditeurs de bandes dessinées, dont Casterman, Glénat, Delcourt ou Bayard. Après avoir salué les dernières avancées, notamment la création d'une association pour le développement de la BD à Angoulême, qui permettra de désigner le futur organisateur du festival, le SNE annonce, les éditeurs estime que l'édition 2026 ne pourra plus se tenir, une manière pour le syndicat de soutenir les autrices, auteurs et leurs représentants qui appellent à ne pas se rendre à Angoulême fin janvier. Le syndicat des éditeurs alternatifs, lui, laisse le choix à ses membres de participer ou non et regrette des réponses apportées très tard dans le calendrier. Hier, le SNAC, syndicat national des auteurs et compositeurs, l'a redit, il ne participera pas au festival de quelque manière que ce soit, tout comme 285 autrices, dont la Grand Prix 2025 à Nouakchott, qui ont maintenu en début de semaine dans une tribune leur appel au boycott. Il en va de même pour les autres syndicats et collectifs représentant les autrices et les auteurs. Donc, sans nombre d'artistes et d'éditeurs, ajoutez à cela une baisse des aides de 200 000 euros annoncée hier par la ministre de la Culture. Difficile d'imaginer comment le festival pourra avoir lieu.
Merci Fiona Mogadam.
Après plusieurs semaines de débats, parfois chaotiques à l'Assemblée, c'est au tour du Sénat d'entamer à partir de cet après-midi son marathon budgétaire.
Avec l'examen tout d'abord du projet de loi de financement de la sécurité sociale avant de s'emparer du budget et parce que la Chambre haute dispose d'une très nette majorité acquise à une alliance de la droite et du centre, eh bien cette configuration permet d'envisager un vote a priori favorable du texte à la seule condition d'arriver au bout des quelques 1300 amendements. Reste à savoir quel texte, quelle sera la copie retenue par les sénateurs? Droite et centristes n'auront sans doute aucun scrupule, par exemple, à refuser en bloc la concession majeure offerte par le gouvernement aux socialistes, comprenez la suspension de la réforme des retraites. Autrement dit, et sauf énorme surprise, celle-ci sera rétablie en séance publique, au risque donc d'anéantir toute chance de compromis final au Parlement. Pas de quoi pour autant décourager la gauche, en dépit de leurs divergences stratégiques sur le budget. Socialistes, écologistes et communistes ont promis d'entrer en résistance en commun dès aujourd'hui et de faire bloc pour défendre les acquis obtenus par leurs collègues députés. Les précisions d'Adrien Toffolet.
au mot employé par la droite sénatoriale qui affirme vouloir carchériser le budget des mesures de gauche, en particulier l'hystérie fiscale, les mesures de taxation des grands patrimoines et des grandes entreprises. La sénatrice écologiste Anne Souyris oppose un autre vocabulaire.
Résistance et combat, c'est les mots que nous on peut employer au Sénat.
Résistance et combat contre la droite et le centre qui vont, comme les années précédentes, faire preuve de mépris envers le travail des députés, selon les sénateurs de gauche, et réécrire le texte pour accoucher d'un budget brutal d'austérité, déplore Cécile Cukierman, présidente du groupe communiste au Sénat.
Face à nous, la droite sénatoriale est unie et elle est rassemblée pour faire de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, que certains ont déjà qualifié de musée des horaires, pire encore que ce qu'il est dans sa copie initiale.
Loin d'être majoritaire dans la Chambre haute et donc d'être en mesure d'empêcher d'agir la droite, les élus de gauche entendent toutefois eux aussi faire bloc, malgré des divergences notables, comme on a pu le voir à l'Assemblée nationale.
Nous demeurons avant tout et surtout rassemblés, comme nous l'avons toujours été, pour pouvoir défendre les Françaises et les Français qui en ont besoin. Et comme chaque année également, nous aurons des votes différenciés sur un certain nombre de sujets.
Notamment la suspension de la réforme des retraites que les communistes, autant à l'Assemblée qu'au Sénat, rejettent car jugée insuffisante. On peut avoir des divergences mais travailler dans l'intérêt des Français, rassure le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner. Une vingtaine d'amendements communs seront d'ailleurs portés, en plus de ceux défendus par chaque groupe, dont un amendement précisément d'abrogation de la réforme des retraites.
Autre illustration de cette cacophonie parlementaire hier, les députés étaient appelés à se prononcer en première lecture sur le projet de loi dit de fin de gestion 2025, censé fixer les ajustements budgétaires à réaliser d'ici la fin de l'année. Le texte a finalement été rejeté par 145 voix contre 107 face à un camp gouvernemental plus clairsemé. L'extrême droite et la France insoumise ont voté contre. Le PS s'est abstenu, de quoi laisser craindre d'ailleurs une issue identique pour la partie recette du projet de loi de finances qui pourrait être voté d'ici à la fin de la semaine. Alors pourquoi ce texte a-t-il été rejeté hier ? Durant les débats, une bonne partie des critiques se sont concentrées sur les baisses de recettes de la TVA par rapport aux prévisions du début de l'année, laissant apparaître un trou de 5 milliards pour l'État. Un déficit que les oppositions Camille Manière imputent à la baisse du pouvoir d'achat des ménages provoquée selon eux par la politique gouvernementale.
Des oppositions qui estiment même à 10 milliards d'euros plutôt que 5 le décalage entre les recettes prévues par Bercy et celles qui sont entrées dans les caisses de l'État cette année, dans un contexte où la consommation des Français a moins augmenté qu'anticipé. Alors oui, pour le président de la Commission des Finances à l'Assemblée, l'insoumis Éric Coquerel, on est bien là face au mirage de la politique économique de l'offre macroniste. Au Parti Socialiste, Philippe Brun y voit la preuve que des millions de Français n'arrivent plus à vivre dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Au RN, Jean-Philippe Tanguy accuse aussi une politique menée, selon lui, contre les consommateurs, contre le pouvoir d'achat et contre les commerçants. Quant au centre, Charles de Courson préfère pointer du doigt un problème fondamental d'estimation des recettes fiscales dans les services de Bercy, avec des modèles de prévision qui sont, selon le député, totalement inadaptés. Car la consommation change. Les Français achètent plus en seconde main, en ligne, et ces achats échappe très largement à la collecte de la TVA. Il y a aussi une part de fraude autour des petits colis importés, pointés du doigt comme une cause par la ministre Amélie de Montchalin, mais qui ne suffit pas à tout expliquer. Car il faut évoquer aussi les fraudes sur la TVA payées par les entreprises. Le gouvernement va imposer l'an prochain la facturation électronique pour cette TVA des sociétés et il espère récupérer 3 milliards d'euros de taxes jusque-là sous-déclarées.
Alors on évoquait tout à l'heure l'examen donc à partir d'aujourd'hui du projet de budget de la sécurité sociale par les sénateurs. Un amendement en particulier fait des remous auprès de très nombreux professionnels du soin psychique en France. Pourquoi ? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Anaëlle Lebovitz-Kenéens, psychanalyste et présidente de l'école de la cause freudienne. Bonjour madame.
Bonjour.
Au total, 14 sénateurs et sénatrices centristes proposent donc de mettre fin à compter du 1er janvier au remboursement de tous les soins, actes, prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques. Avant de voir avec vous quels sont les dangers donc que vous identifiez avec cette mesure, au sens strict, les actes de psychanalyse ne sont déjà pas remboursés a priori par la Caisse nationale d'assurance maladie. Qu'est-ce que cela change ? Quels seraient les actes concernés par un tel amendement ?
Alors, les actes des psychanalystes ne sont en effet pas remboursés par l'assurance maladie. Ils ne l'ont jamais été et personne ne souhaite qu'ils le soient. Cela étant, en France, qui est le pays de Jacques Lacan, éminent psychanalyste, énormément de professionnels de la santé mentale sont orientés par la psychanalyse, inventée par Freud il y a plus d'un siècle. Parmi eux, il y a bien sûr des psychiatres, des psychologues, mais aussi des éducateurs, des infirmiers. Bref, beaucoup se réfèrent à cette orientation. Orientation qu'on peut caractériser très facilement. Vous avez deux pôles dans la façon de recevoir et d'accueillir un patient, deux façons qui s'opposent diamétralement et dont l'une est orientée par la psychanalyse, qui fait accueil à la singularité du patient qui souffre. Et cela, qu'il soit atteint légèrement, ou qu'il soit très gravement atteint. Et que veut dire recevoir dans sa singularité un patient ? Ça veut dire ne pas préjuger à l'avance de ce qu'est son bien, ne pas avoir de protocole préétabli, ne pas considérer qu'il est réductible à ses symptômes les plus caractérisés, mais qu'il s'agit de le laisser parler, que pour ça il faut un lien de confiance, qu'on appelle le transfert, terme que vous connaissez sans doute, qui est connu. On établit un lien de confiance, et donc on ne peut pas changer de praticien tous les trois jours, on ne peut pas considérer que... On fait trois séances avec un psy, deux autres avec un autre. On n'est pas réductible, encore une fois, à ce dont on souffre, à ce qui est identifié par les autres, mais on va plutôt laisser le patient parler de ce dont il souffre et le laisser parler complètement librement. Et peut-être que, bien souvent, il s'avère que ce qui est identifié par les autres comme faisant problème pour eux n'est pas ce qui fait problème nécessairement pour le patient. Ou en tout cas, ce n'est pas prioritairement ce qui le dérange. Et pour accueillir une parole singulière, considérer que le lien de confiance est crucial, que le fait qu'on puisse à la fois écouter mais aussi répondre, interpréter ce que dit le patient, eh bien cela, nous le devons à la psychanalyse inventée par Freud, prolongée par Lacan, et qui, en France, en effet, oriente massivement les acteurs du soin psychique.
Pour justifier, on va dire, leur proposition, les auteurs, autrices de cet amendement avancent, d'une part, que la Haute Autorité de Santé n'a jamais validé scientifiquement, on va dire, la psychanalyse, et ensuite que certains rapports publics estiment qu'elle serait même, à la différence donc de la psychothérapie, inefficace, voire contre-productive. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je réponds d'abord que la psychanalyse fait partie, depuis 2004, c'est inscrit dans la loi, la psychanalyse fait partie des psychothérapies. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé peut faire des recommandations qui ne sont en aucun cas des interdictions. Que je sache, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas, ce qui est très loin d'interdire, l'orientation psychanalytique dans le cas des traitements d'autistes, et elle a parfaitement tort sur ce point. Pour toutes les autres affections psychiatriques, elle n'interdit pas, elle ne dérecommande pas, si je puis dire, les psychothérapies d'orientation analytique. Donc, il me semble que là, il y a un biais. Par ailleurs, il faut voir que ces recommandations de la HAS, qui ne sont encore une fois que des recommandations, elles ne sont pas établies sur des preuves scientifiques, elles sont loin du débat scientifique, elles sont établies par consensus. Quand on a un consensus, il faut voir qui se met d'accord. Il faudra qu'on aille voir de près, grâce à Madame Guidez, on va en effet aller voir de près qui se met d'accord pour considérer la non-efficacité de la psychanalyse quand on sait, chacun d'entre nous le sait parce que des personnalités publiques ont pu dire à quel point faire une analyse ça les avait aidés, voire que ça leur avait sauvé la vie, et nous documentons très massivement les cas et les effets, les cas que nous recevons et les effets que nous produisons, qui sont extrêmement, bien sûr, positifs et encore une fois documentés. Il y a des revues scientifiques de haut rang international qui vont dans le sens d'une efficacité de la psychanalyse. Je crois que il y a peut-être, en tout cas, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait pression pour que la psychanalyse, qui a un siècle d'existence, qui a fait ses preuves, qui a participé à l'avènement du monde moderne, soit aujourd'hui décriée de cette façon. Et il n'est pas impossible que des lobbies pharmaceutiques, par exemple, aient intérêt à discréditer cette approche. Mais je voudrais dire une chose, puisqu'il est question dans cette loi et avec cet amendement de faire des économies, que les économies que la psychanalyse permet de faire, elles sont absolument considérables. Le nombre de psychotropes qui ne sont pas prescrits, le nombre d'hospitalisations qui n'ont pas lieu grâce au fait que des praticiens orientés par la psychanalyse reçoivent des patients, accueillent leurs souffrances et leur évitent des passages à l'acte gravissimes, eh bien ça c'est absolument considérable.
Et on terminera par ces mots. Merci Annaëlle Leibovitz-Kenéen, psychanalyste et présidente de l'école de la cause freudienne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Au milieu des murs, criblés d'éclats d'obus et des taches de sang maculant le sol, les habitants du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban pleurent encore leur disparu ce matin. Des corps, désormais en lambeaux, essentiellement des jeunes tués la nuit dernière dans une frappe israélienne, bilan au moins 13 morts, soit la frappe la plus meurtrière menée depuis près d'un an par l'État hébreu qui assure avoir visé un camp d'entraînement du Hamas, quand les habitants parlent, eux, d'un hangar récemment aménagé en terrain de jeu pour les enfants. Les précisions depuis Beyrouth de notre correspondant Arthur Saradin.
De cette frappe dans le camp de Ain el-Helwe, nous n'avons que quelques vidéos capturées par des habitants. Selon eux, aucun centre d'entraînement du Hamas à cet endroit, seulement un terrain de football couvert où les jeunes hommes tués jouaient un match. L'accès à ce camp, le plus important du pays, est interdit de longue date par l'armée libanaise, impossible donc pour le moment d'y pénétrer. La seule image de l'explosion a été diffusée par l'armée israélienne. Elle nous permet d'identifier le bâtiment via des images satellites. Il est au sud du camp, dans une zone densément peuplée, près d'une mosquée réputée proche du Hamas. Cependant, l'organisation n'a pas encore revendiqué le martyre de jeunes combattants, ce qu'elle fait toujours d'ordinaire. Aujourd'hui, les institutions du camp sont en grève pour protester contre cette attaque inédite, très éloignée de la frontière israélienne. Elle s'ajoute à la liste des violations quotidiennes du cessez-le-feu par Tel Aviv depuis novembre 2024. Selon l'ONU, plus de 108 civils ont été tués au Liban depuis son entrée en vigueur.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin en Turquie pour des pourparlers visant à raviver les efforts de paix après plus de 3 années d'invasion de la Russie. Un peu plus tôt, l'armée du Kremlin a lancé une vaste attaque. 470 drones et 48 missiles au total, tuant au moins 19 personnes dans l'ouest du pays et endommageant de très nombreuses infrastructures énergétiques et de transport.
Hier, c'est à une écrasante majorité que le Congrès américain a fini par approuver la loi visant à contraindre le gouvernement à rendre public son dossier sur l'ex-financier new-yorkais et criminel sexuel Jeffrey Epstein.
Oui, des documents qui forcément constituent un terreau fertile pour toutes les théories sur les révélations explosives qu'il pourrait contenir, en particulier depuis qu'a éclaté la colère du président Donald Trump après son échec à convaincre ses plus fidèles soutiens de ne pas les rendre publics. Et puis toujours aux États-Unis, la rencontre hier entre Donald Trump et le prince héritier d'Arabie Saoudite, rencontre donc entre Mohamed Ben Salman et Donald Trump, aura été fructueuse, assis sous les dorures du bureau ovale, l'ex-parlement a reçu les honneurs du président américain avec des égards tout à fait exceptionnels, entérinant ainsi la normalisation entre les deux pays, avec à la clé un chèque pour le moins généreux à destination de Washington, plus exactement la promesse du royaume wahhabite de porter à 1000 milliards de dollars le montant de ses futurs investissements aux États-Unis.
Enfin, le Père Noël n'est pas censé apporter de cadeaux empoisonnés aux enfants, et pourtant...
Selon une étude dévoilée ce matin par la Fédération européenne des professionnels du secteur, 86% des jouets non européens contrôlés présentent des risques sévères pour la sécurité et la santé des plus petits. C'est 6 points de plus que l'an dernier. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, c'est ainsi que les fabricants, Fabien, appellent donc à présent l'Union Européenne à agir contre cet afflux massif de jouets dangereux qui se déverse sur le vieux continent, en particulier via les plateformes de commerce en ligne et notamment chinoises.
Effectivement, qu'il s'agisse de petits composants ou même de piles que les enfants risquent d'avaler, des dangers de brûlure pour les jouets à batterie ou de suffocation, les résultats sont encore plus alarmants que l'an dernier. C'est la Fédération Européenne Toys Industry, dirigée par Catherine Van Rett, qui a mené l'enquête.
Il y a aujourd'hui encore beaucoup trop de jouets dangereux sur les plateformes qui sont offerts par des vendeurs des pays tiers. Les règles sont très strictes. Nos adhérents font le plus pour être sûrs que les jouets sont conformes et ne sont pas dangereux. Donc on veut vraiment que tout le monde suit les règles.
Une concurrence déloyale, notamment dénoncée ce matin par le patron de Smoby, Alexis Delorme.
Il y a
C'est aberrant. Où sommes-nous ? L'Europe, normalement, c'est une zone sur laquelle le consommateur est protégé. Moi, c'est 20 personnes hein, chez Smoby qui travaillent sur la sécurité et la qualité des produits pour s'assurer qu'à la fin, le produit il respecte l'intégralité des normes.
Les fabricants européens de jouets demandent plus de contrôles douaniers en amont de l'arrivée des produits, notamment chinois, sur le marché européen. Ils saluent la taxation des petits paquets promise pour l'an prochain qui pourrait contribuer à cet objectif, sans toutefois résoudre les problèmes liés à la fabrication des jouets importés.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une perturbation qui apportera partout de la pluie, à l'exception du quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Fabien Tchekopar. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.